BW. Droits et libertés.
Figurez-vous qu'il n'y a pas que des Africains noirs qui émigrent aux États-Unis. Il y a aussi des Noirs américains qui décident de faire le pas inverse et de retrouver le continent de leurs ancêtres. L'année dernière, le Ghana avait même initié une année du retour au pays. Nous allons donc à la rencontre de quelques personnes qui ont tenté l'expérience. Mais tout de suite, nous revenons sur le rapport alarmant publié il y a quelques jours par l'ONG Save the Children. Elle craint une recrudescence des mariages d'enfants à cause des répercussions du coronavirus. Et vous le verrez, le Sahel est loin d'être épargné. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Nous en avons déjà parlé sur cette antenne. La pandémie de Covid-19 a considérablement affaibli de nombreux foyers, pas seulement sur le plan sanitaire, mais aussi économique. Beaucoup de personnes de la classe moyenne ont été déclassées du fait de la diminution de leurs revenus et même parfois de la perte totale de leur emploi. Et les pauvres sont devenus encore plus pauvres. De ce fait, beaucoup de parents dans le besoin risquent de voir dans le mariage précoce de leurs enfants et surtout de leurs filles une issue à une situation difficile dans laquelle ils ne parviennent plus à subvenir aux besoins de toute la famille. L'ONG Save the Children estime que près d'un demi-million de jeunes filles risquent ainsi d'être mariées de force cette année dans le monde, alors qu'elles ne sont même pas majeures. Alors au-delà des destins individuels brisés, cette hausse risque de remettre en cause les progrès enregistrés ces dernières années dans la lutte contre le mariage d'enfants. Pour en savoir plus, j'ai joint Valérie Danimissom Sorgo Koutou. Elle est la représentante de Save the Children au Burkina Faso. Elle est chargée de plaidoyer pour les pays du Sahel.
Je suis Valérie Danimissom Sorgo Koutou. Je suis conseillère technique régionale en plaidoyer et campagne pour la région du Sahel. Je suis basée à Ouagadougou, au Burkina Faso.
Ce rapport qui vient d'être publié par Save the Children est assez fait se dresser les poils quand on lit ça. On s'attend à jusqu'à un demi-million de jeunes filles supplémentaires qui pourraient être mariées précocement et ou de force cette année dans le monde. Ma première question, c'est quelle est l'ampleur du phénomène attendu dans votre région, dans le Sahel?
Ce qui est sûr, c'est que le Covid-19 met en péril des progrès durablement acquis pendant longtemps pour les filles du Sahel et pour les filles globalement. Et en plus de cela, il exacerbe des inégalités existantes déjà. Donc, déjà pour la région du Sahel, ces inégalités avaient été exacerbées par les conflits qui existaient déjà. Vous savez que depuis 2012, le Sahel central, qui comprenne le Mali, le Burkina et le Niger, et jusqu'à présent sont entrés à une crise humanitaire sans précédent. Maintenant, avec le Covid, bien sûr, il ne faut pas s'attendre à voir les effets du Covid sur l'enfant ou sur la jeune fille, tels que la contamination par le virus, le développement des symptômes. Non, ça ne sera pas comme ça. Ça sera une manifestation vraiment due au confinement, à l'absence de l'accessibilité aux services sociaux de base de santé, à une hausse de la pauvreté, à une insécurité alimentaire et aussi à la fermeture des écoles aussi qui sont venues s'ajouter à une première fermeture qu'on avait enregistrée pendant cette crise humanitaire-là. Donc globalement, nous estimons à près de 9,7 millions d'enfants qui ne pourront plus jamais aller à l'école après le Covid.
Donc, parmi les témoignages qui ont été recueillis, il y en a plusieurs aussi qui disent donc qu'à cause du confinement ou de la baisse des activités économiques, leurs parents se sont vus appauvris, ils ont perdu leurs moyens de subsistance et que donc dans ces cas-là, parfois, le mariage précoce, ça peut être une solution pour des parents qui ne peuvent plus subvenir aux besoins de leur fille.
À cause de la hausse de la pauvreté, parce que les parents ne peuvent plus aller travailler. Même ceux qui peuvent aller travailler, ils ont vu leurs revenus très, très réduits parce qu'ils n'ont plus les heures pleines de travail et tout ça. Donc, les parents n'ont plus les moyens de subvenir aux besoins de leurs enfants. Et en retour, les enfants sont exposés, surtout les jeunes filles, à des cas comme ça. Donc, nous avons travaillé avec des leaders religieux ou coutumiers un peu partout dans nos pays, au Burkina, au Mali, qui ont vraiment se sont donnés pour pouvoir mener des dialogues parentaux avec les parents directement, parce que au dernier ressort, c'est le parent qui décide de l'avenir ou du sort de sa fille. Les parents voient dans le mariage une forme de protection pour les enfants. C'est pour les protéger, les mettre à l'abri du besoin, les mettre ce qui est carrément faux et erroné.
Alors, quelles sont vos autres recommandations? Parce que c'est tout un changement de mentalité aussi là, que vous appelez de vos voeux. C'est difficile de s'adresser à des parents dans le besoin pour les convaincre que cette pratique peut être néfaste à leur fille. Il faut sans doute prendre le problème plus en amont.
Oui, absolument. C'est pour ça que dans toutes nos interventions, nous mettons en avant tout ce qui est engagement communautaire, travail sur les normes sociales, les normes de genre, dialogue parental. Nous avons beaucoup, beaucoup d'interventions sur la mise en œuvre de lois et de politiques pour protéger la jeune fille, pour contre le mariage d'enfants, sur l'âge du mariage d'enfants. Mais à côté de ces interventions sur le changement politique, le plaidoyer pour le changement politique, mais au-delà de cela, nous interpellons vraiment les gouvernements, les parents, et aussi les leaders religieux ou traditionnels, tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir dans leur communauté, dans leur pays et dans leur région, a vraiment donné la voix aux jeunes filles. Parce que pour Save the Children, nul ne pourrait connaître mieux les besoins de la jeune fille que la jeune fille elle-même. Donc, donner la parole à la jeune fille pour qu'elle puisse s'exprimer sur ses besoins et sur les solutions qui peuvent l'aider à vivre mieux.
Valérie Danimissom Sorgo Koutou, un grand merci.
Merci à vous, madame. Au revoir.
Carnita Grove a 58 ans. Elle est américaine, originaire de Denver, dans le Colorado. En 2014, elle a décidé de s'installer au Ghana et de réaliser ainsi son rêve d'Afrique. Elle appelle cela rentrer au bercail. Elle dit avoir toujours su qu'elle le ferait un jour. Carnita Grove appartient à ces Noirs des États-Unis qui ont décidé de partir s'installer en Afrique. Ce qui l'a motivée au départ, c'était un peu de retrouver une patrie rêvée, de fuir le racisme qui l'a toujours fait se sentir étrangère aux États-Unis.
My opinion is that the United States has not changed.
À mon avis, les États-Unis n'ont pas changé. Il y a toujours les champs de coton, simplement une version moderne des plantations. J'ai un souvenir très fort. Souvent, j'avais l'impression d'être à l'extérieur des choses. Ça a duré toute mon enfance et jusqu'à l'âge adulte. L'impression d'être observé. On te traite de nègre. Tu regardes dans le rétro de ta voiture et tu vois que la police te suit. À l'école, on part du principe que tu n'arriveras à rien et que si tu fais des erreurs, c'est dû à ton ethnie.
Un sentiment assez répandu que le Ghana a su exploiter politiquement. Il fait partie des pays qui tentent le plus d'attirer à lui des Afro-Américains. La branche tourisme du Ghana a même lancé, je vous le disais, une année du retour en 2019 pour attirer la diaspora américaine. 400 ans après le début du commerce triangulaire des esclaves et la traite négrière, le Ghana a donc décidé de rappeler les descendants de ceux qu'on avait mis sur des bateaux en direction de l'Amérique. Les autorités affirment avoir eu du succès avec leur opération, que plusieurs milliers de personnes auraient répondu à leur appel. L'idée était d'attirer des gens qui viennent s'installer ou tout bonnement visiter le Ghana, que le pays devienne une sorte d'endroit de pèlerinage, entre guillemets, pour les touristes en recherche d'identité. La ministre ghanéenne du tourisme a même profité d'une cérémonie en hommage à George Floyd pour s'adresser à la communauté noire américaine. On écoute Barbara Oteng Giazi.
Ghana is your home. Africa is your home.
Le Ghana est votre maison. L'Afrique est votre maison. Nous vous accueillons à bras ouverts chez vous. Saisissez votre chance, rentrez chez vous et recommencez votre vie au Ghana. Vous n'êtes pas obligé de rester pour toujours dans un pays qui ne veut pas de vous. Vous avez le choix. L'Afrique vous attend.
Mais certains Noirs américains ont d'autres moteurs que la fuite du racisme ou la recherche de leurs racines. Certains veulent tenter leur chance en créant une entreprise dans un marché en plein boom. C'est le cas de LaKeisha Ford, qui a monté une agence de pub à Accra pour les entreprises internationales qui veulent s'implanter au Ghana ou y tisser des liens commerciaux. Et puis bien sûr, pour aider aussi les entreprises ghanéennes à s'ouvrir à l'international. C'est à 32 ans que LaKeisha Ford est venue pour la première fois en Afrique, dans le cadre d'un programme d'échange.
Ça m'a bluffé de voir toutes ces innovations. Quand je suis arrivée, le Ghana venait de découvrir des gisements de pétrole sur son littoral. Il y avait une vraie ébullition et ça m'a fascinée, tout en m'attristant que ce genre d'histoire ne trouve pas leur place dans les médias américains. Comment ça se fait qu'on ne nous dise jamais rien des trucs super qui se passent en Afrique ?
Au Ghana, LaKeisha Ford n'est pas une femme noire, elle se sent tout simplement comme une femme qui appartient à la communauté majoritaire. Quelque chose que recherchent beaucoup d'Afro-Américains qui espèrent ainsi repartir sur des bases plus saines, délivrés des discriminations qu'ils subissent aux États-Unis. Mais évidemment, la société dans laquelle ils arrivent en venant au Ghana, par exemple, est très différente de celle qu'ils ont connue outre-Atlantique. Au Ghana, près de 47% de la population est pauvre, la corruption est très répandue, les femmes n'ont au quotidien pas les mêmes droits que les hommes. LaKeisha Ford reconnaît volontiers que tout n'est pas rose, mais elle conseille à tous les Noirs du monde de venir au moins une fois en Afrique, ne serait-ce que pour passer des vacances.
You'll find a lot of similarities when you come to West Africa, most specifically Ghana.
Tu as tellement de points communs avec les gens, surtout en Afrique de l'Ouest et au Ghana. La danse, par exemple, les percussions qu'on retrouve dans la musique dancehall, ou les enterrements même, qui se font comme à la Nouvelle-Orléans. Si tu vas ici à Jamestown, tu as l'impression que c'est quasiment la même chose. Ici, on trouve plein de choses avec lesquelles on a déjà un lien, et ça rend plus fort. Psychiquement, tu te sens regonflé. Tu as plus confiance en toi en tant que personne et en tant que noir.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Dunia Sadaki pour les sons du Ghana et à Valérie Danimisom Sango Koutou et à Save the Children pour leur disponibilité. Pour podcaster Droits et Libertés, rien de plus simple, allez voir sur notre site internet dw.com/français dans la rubrique Nos podcasts. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, et d'ici là, ne lâchez rien.
Je suis l'enfant noir, je pleure la misère du monde.